Alors, on se trouve au pied du Grand Fou. Fou, Fao, Fayard, Fagus. Donc, le grand être qui nous trône au fond de la scène du Théâtre du Peuple. On est derrière et on le contemple. C'est un arbre particulier. Alors, c'est vrai qu'il attire tout de suite l'œil très fort. Il a des collègues aussi autour. Il y a un érable, il y a un autre être un peu plus loin. Il y a même un tout petit que nous, on a déplacé, qui est un de ces petits qu'on a déplacé pour mettre en face en se disant ben, « En fait, Fagus, à un moment, il ne sera plus là. Donc, peut-être qu'il faut que nous, on pense à son successeur. » Donc, on a planté, il y a quelques mois, un de ces petits qu'on a déplacé de quelques mètres pour qu'il prenne mieux la lumière et pour le mettre en face en se disant « Il sera possiblement le successeur. » Mais bon, pour l'instant, Fagus va bien. Il y a un truc que je trouve d'absolument fascinant, c'est que on le regarde, il est vraiment pas loin du tout. Hein. Il est à quelques mètres de la grande cabane du lieu. Hein, ça monte très très haut là. Et si tu vois, on regarde bien, on voit qu'il n'y a pas de timidité entre le bâtiment et l'arbre, alors que tous les autres arbres autour ne le touchent pas, ne touchent pas le bâti. Ce être touche le bâtiment, comme s'ils s'embrassaient, quoi. Et ça, moi, ça m'émeut énormément. Ma collègue Héloïse dit que c'est le être le plus applaudi de France, voire même du monde. C'est vraiment la raison de ma venue ici, c'est lui. C'est la rencontre avec ce être et cet être. J'avais pas spécifiquement un rapport aux arbres, ni en tant qu'humaine, ni en tant qu'artiste. Enfin, j'ai une sensibilité, mais voilà. Le coup de foudre, il s'est vraiment produit avec lui. C'est le fait de le voir comme ça, alors encadré dans l'espace d'une représentation, peu importe d'ailleurs le spectacle, ça a juste été de le voir et de me dire, mais en fait, il y a quelque chose dans ce bout de vivant-là qui m'attire irrésistiblement. À chaque fois qu'il y a des réflexions importantes qui doivent se prendre, je trouve important de le faire à ses côtés. Je trouve important de me poser au pied de cet arbre, de réfléchir. Sa présence m'aide à me sentir plus réceptive. Plus fertile. Et il ne faut pas que je perde le contact. Les arbres ici sont nos collègues. C'est vraiment ça pour moi. Comme la nuit est tombée et qu'il commence à faire froid, on s'est retranché dans les bureaux chauffés. Et là, on a bien vu qu'il faisait froid dans le théâtre. Il va faire froid des fois jusqu'à début juillet. On n'est pas équipé il n'est équipé que pendant la saison d'été. Donc on emprunte nos projecteurs à nos collègues de la Comédie de Colmar, du Théâtre National de Strasbourg. Voilà, on n'a pas de choses à nous puisqu'on ne peut pas les stocker, ça gèlerait. On a quelques petites choses, mais la plupart des choses, c'est prêté pour l'été. On nettoie complètement le lieu, on le rééquipe au printemps, puis on crée les formes qui vont être jouées pendant l'été. Elles sont jouées, puis ensuite on démonte à l'automne. Il y a cette petite dormance pendant un temps. Et c'est pour ça aussi que dans ce que je cherche, je me dis que peut-être il faudrait raisonner en termes d'années plus longues, avec ce rythme des saisons, mais peut-être se dire que là, moi j'ai choisi de lancer un ouvrage, un élan, enfin je ne sais pas, qui s'appelle « Vivante ». Et qui va couvrir les deux prochaines années. Pour se dire qu'on s'inscrit un peu plus dans la durée aussi. Comment est-ce que nous, on propose un autre rythme? Et en s'ajustant aussi au rythme naturel des saisons, en essayant de déployer un peu plus de l'attention à notre sens de la durée et à la nature qui nous inspire.
C'est un théâtre qui est habité. On a des chauves-souris l'été qui viennent certainement se nourrir des insectes attirés par la lumière des projecteurs. Donc en particulier, au moment des spectacles qui sont joués en soirée, on peut deviner des chauves-souris qui voltigent au-dessus des interprètes. On a une petite communauté de Loire qui vient passer du temps ici l'hiver. Et on a déjà trouvé une chouette qui avait élu domicile dans une loge. Parfois, on devine des nids qui ont été installés sur une poutre entre deux planches. Et évidemment aussi des plus petits animaux, des insectes qui sont présents partout ici. Et ça, on y est particulièrement attentif depuis quelques temps, depuis notamment l'arrivée de Julie Delisle. Et là, on entre dans un nouvel élan qu'on a intitulé « Vivante ». Et on a choisi de faire connaissance avec justement les vivants avec lesquels on cohabite au Théâtre du Peuple. Et donc on a proposé à des naturalistes de venir faire un inventaire de la biodiversité au Théâtre du Peuple, donc à la fois à l'intérieur mais surtout à l'extérieur, donc la botanique, donc la flore, la faune. Donc il y a des naturalistes qui ont commencé un inventaire. Et peut-être que cette matière scientifique, naturaliste qu'on a commencé à récolter donnera lieu à une création. En tout cas, on souhaite lui donner une forme poétique puisque c'est le langage qu'on cultive ici au Théâtre du Peuple. Et peut-être que dans la devise du Théâtre du Peuple, la devise de Maurice Potcher, par l'art pour l'humanité, peut-être que dans l'humanité, lui avait déjà senti que c'était pas seulement les humains, mais que c'était aussi tous les vivants. Il y a le vivant à l'intérieur, il y a le vivant à l'extérieur, et les vivants, ils sont multiples. Et c'est important de se décentrer aussi et d'ouvrir son regard, son attention sur ce qui nous entoure et pour continuer à cohabiter parce qu'on est interdépendants. Et je crois que si ce théâtre fête cette année ses 130 ans, c'est aussi parce qu'il a su aussi être à l'écoute de son environnement.
Moi, je suis arrivée avec un projet d'écologie profonde. Un projet qui inclurait, si on suit ce que Guattari a écrit dans les trois écologies, l'écologie mentale, l'écologie sociale et l'écologie environnementale. Et ce serait ça l'écosophie ou l'écologie profonde. Et puis en suivant aussi la pensée d'un philosophe norvégien montagnard qui s'appelle Arne Næss. Et j'ai le sentiment que l'écologie profonde est une manière d'être au monde qui pourrait répondre aux défis de l'époque. C'est grâce à la poésie, grâce aux poètes en fait, qu'on gagne en sensibilité, qu'on arrive à affiner. Et là, d'un coup, ben, en fait, tout ce qui paraît être des voies sans issue, des énormes montagnes qui se trouvent devant nous avec pas de solution, parce que d'un coup, voilà, on se retrouve complètement solastalgique ou je sais pas, éco-anxieux. Enfin, tout ce qu'on vit là dans la société, puis alors avec les paquets de crises qu'on a, il y a vraiment des bonnes raisons de pas être bien, quoi. Je pense et je crois que la posture de l'écosophe, donc de ce sage de la maison, oikos, sophia, la sagesse, est une vraie voie. L'écosophe, c'est celui qui, face à la montagne, comprendre, observer, attendre, sentir et puis s'apercevoir à un moment qu'il y a finalement un petit chemin que tu n'avais pas du tout vu au départ, qui n'est pas la grosse route qui s'est éboulée, là, voilà, le truc impossible et qui va te permettre de monter petit à petit, en sinuant, en ayant l'impression qu'à des moments tu t'éloignes complètement de ton but. Donc voilà, là, je sais pas, il y a des, on va dire des principes de sérendipité, par exemple. La sérendipité, c'est quand tu trouves un peu sans chercher. Enfin, en tout cas, tu sais pas très bien ce que tu cherches, mais tu tournes autour et tu découvres des choses comme ça, un peu. Des choses qui sont de se dire que tout peut arriver à tout moment. Et le facteur joie, il est au cœur de la pensée écosophique. Et il y a toutes les formes de joie. Il y a la tristesse joyeuse, la joie de la colère, il y a la joie de l'expression de la joie dans toutes ses dimensions. Hein. C'est pas que simplement sourire au monde et trouver que tout est merveilleux et être. C'est cette espèce de d'état, le seul état dans lequel tu peux être dans un apprentissage et donc une modification des comportements. Rien ne s'imprime à l'intérieur de toi si ça ne n'est pas passé par la joie. Une fois que je crois qu'on comprend ça, ça guide énormément. Est-ce que cette décision te génère... Et je ne parle pas de plaisir. Prendre ce paquet de bonbons et tant pis, Fred, va te procurer un plaisir immédiat et tout ça, mais est-ce que ça te génère une joie profonde? Et ça, c'est ce que je crois Ernest, il essaye de dire aussi. Voilà, il est spinoziste. Et ici, ce lieu, il a, on revient en fait au début de notre échange, il a cette capacité à générer, à accompagner, à porter, à sublimer notre joie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi il fait ça. Je ne sais pas, mais je sais que ça se passe. Et là, d'un coup, ben en fait, c'est là que je pense qu'on peut changer le monde. Parce qu'on a un lieu qui fait ça. Donc il nous prépare notre petit terrain du cœur, quoi. Il nous prépare à l'intérieur. Et quand on repart du théâtre du peuple, je crois qu'on peut prendre des décisions. Je crois qu'il y a des décisions importantes. En tout cas, moi, il y a une décision qui a changé ma vie en venant ici. Donc si ça s'est produit pour moi, ça peut se produire pour tout le monde.
Pour certaines personnes, quand elles entrent dans le théâtre, il y a une sensation d'un lieu religieux, spirituel. Je pense qu'il y a le rapport scène-salle, ce rapport frontal qui peut rappeler l'assemblée avec l'autel. C'est vrai qu'un théâtre, finalement, c'est un lieu de communion, c'est un lieu sacré, c'est un lieu de partage. Et il y a peut-être les bancs bois qui nous rappellent aussi les bancs d'église. Peut-être la lumière qui traverse... les carreaux ici, qui ne sont pas des vitraux, mais presque, qui rappellent aussi cette ambiance de recueillement. Donc c'est vraiment un lieu qui a une forte saisonnalité, puisque n'étant pas chauffé, on dépend vraiment des saisons et des températures. Et donc notre activité, elle s'adapte à la saisonnalité.
La première chose qui m'a interpellée quand on est rentré, c'est qu'on s'est mis à chuchoter presque naturellement.
Ah. Oh, ça, c'est moi. Oui, oui. Ah, c'est moi, je pense. Ah, oh, mais on peut parler très fort, hein, dans le théâtre. Il n'y a aucun souci, hein. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire du bruit comme ça. Généralement, l'été, quand le spectacle plaît beaucoup au public, le public applaudit très chaleureusement, mais aussi tape des pieds comme ça dans la salle. Et donc, il y a tout le plancher de la salle qui résonne. Et ça, c'est une tradition. Et nous qui sommes dans les bureaux, généralement, à ce moment-là, on a les murs qui tremblent. Voilà. Quand le public est content, il tape des mains et des pieds.
C'est un lieu qui accompagne une certaine introspection, on pourrait dire. Un certain lien au calme intérieur. C'est pas aberrant de le comparer à un lieu de spiritualité, comme une église, un temple. Il te rend plus calme. Pour peu que tu te laisses faire, en fait, c'est ça aussi. Alors là, on est à l'automne, l'hiver, tout ça, ça va paraître plus facile. L'été, quand il y a tout le monde, tout le temps, partout, et puis cette frénésie, ce truc très, très humain, très, très bruyant, envahissant à des moments, c'est plus dur, mais il y a toujours des petits instants. Et puis c'est un lieu qui est la nuit. Alors, et pas du tout silencieux la nuit. Absolument pas silencieux. Quand on passe une nuit dedans, on s'en rend compte. Il y a des animaux qui passent dedans, et puis ils craquent. Il craque tout le temps. Parfois, si tu peux entendre le vent aussi. Mais pas que par rapport au lieu. Si les portes sont ouvertes, tu vas entendre le vent dans les arbres. Et alors, quand il pleut ou qu'il y a carrément un orage, il y en a l'été, etc. Là, c'est très puissant. D'un seul coup, ça frappe la tôle du toit qui résonne comme de la tôle. Donc très, très, très bruyant. On ne s'entend plus. S'il y a une grosse averse, on ne s'entend plus dans le théâtre. Il peut y avoir des niveaux de son extrêmement élevés comme des niveaux de son extrêmement bas. C'est vraiment très impressionnant.
C'était le Vivant Théâtre du Peuple, deuxième épisode. Avec la directrice Julie Delisle et Héloïse Erard, chargée des relations avec les publics. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.